Lyonesse, tome 2, La Perle Verte, de Jack Vance. Traduit de l'anglais par Arlette Rosenblum, lu par Marvin Schlick.
Le lendemain du banquet, à midi, le seigneur Malouf vint rendre compte de l'état des finances royales à son souverain Ayas. La mine de Malouf était lugubre et il apportait de mauvaises nouvelles.
En raison de l'incursion en Ulfland du Sud, conjugué avec le coût des constructions navales au chantier de la rivière Andante, nos réserves monétaires ont été réduites à un niveau critique.
Dit Ayas. Voilà qui n'est pas agréable à entendre.
Il y a longtemps que j'ai donné des avertissements à ce sujet.
Malouf parlait avec une sombre satisfaction.
Maintenant, mes propos se vérifient.
C'est bien possible. Et nos revenus du Dacinet, sont-ils arrivés ?
Pas encore, sire, non plus que les fonds du Scola. Ni les uns ni les autres ne doivent être encaissés avant la semaine prochaine.
Pour une semaine, donc, il nous faut vivre économiquement. D'ici peu, du moins je l'espère, l'Ulfland du Sud subviendra à ses propres besoins. J'ai envoyé des ingénieurs inspecter les vieilles mines, qui, m'a-t-on dit, n'ont pas été épuisées mais ont simplement été abandonnées à cause des bandits et pillards. Il y a peut-être aussi de l'or alluvial dans les rivières. Elles n'ont jamais été examinées et un grand rendement pourrait éventuellement en être tiré, suffisant pour payer toutes nos dépenses. Qu'en dites-vous ?
À l'heure actuelle, cet afflux de richesses est entièrement hypothétique et nul doute qu'il obligera à des investissements substantiels avant que nous prouvions seulement son existence.
Ayas sourit.
Malouf, vous avez une tournure d'esprit pratique qui est terriblement décourageante.
Si les choses en viennent au pire, nous aurons recours pour avoir des fonds à cette méthode surnommée universellement la vieille infaillible. Les impôts. Il n'y a qu'à pressurer les gens jusqu'à ce que les chaussures grincent. Les rois devraient seuls avoir le privilège d'utiliser l'argent. C'est bien trop bon pour le commun des mortels.
Sire, dit Malouf avec tristesse, je suppose que vous plaisantez.
Pas tout à fait. J'ai l'intention de décréter des taxes portuaires à Is. Jusqu'à présent, personne là-bas n'a jamais déboursé un liard. De plus, nous devons commencer à collecter les revenus du Valet-Vendre qui étaient versés auparavant à Carfiliot. Il y a donc des bénéfices en vue. Et un de ces jours, nous extirperons aux barons les caches d'or qu'ils se sont constituées en se volant mutuellement. Malouf fronça les sourcils en évaluant ce qu'il estimait être des failles dans ce plan, mais, à nouveau, conclut qu'Ayas plaisantait. Il déclara
« Rude programme !»
Ayas rit, mais très simple à appliquer. Je promulguerai des lois que je sais qu'ils enfreindront. Je leur infligerai donc de lourdes amendes qu'ils devront payer sinon ils seront expulsés et réduits à errer sur la lande. J'aimerais seulement pouvoir appliquer la même méthode au roi Casimir et à son navire de guerre clandestin, mais je crains qu'il ne veuille pas payer ses amendes. De stupeur, Malouf haussa les sourcils.
Vous n'avez pas le droit d'imposer des amendes au roi Casimir.
Tristement vrai. C'est pourquoi je dois avoir recours à des mesures plus énergiques. Malouf fronça de nouveau les sourcils, cette fois l'air déconcerté.
De quelle sorte ?
Dans 2 semaines exactement, à partir de ce soir, des hommes à nous effectueront un raid sur le chantier naval de Sardilla et réduiront en cendres la coque clandestine de Casimir. À l'avenir, il tiendra ses engagements avec plus de sérieux. Malouf secoua la tête.
Entreprise périlleuse.
Moins que de laisser Casimir disposer d'une flotte de navires de guerre. Malouf n'avait plus rien à dire et se retira. Dans le courant de la même journée, Ayas s'entretint avec le seigneur Pirmens, à qui il donna le même renseignement. Plus tard encore, vers la fin de l'après-midi, Ayas mentionna négligemment en la double présence des seigneurs Witherwood et Cyan Tansifer que le raid sur Sardilla aurait lieu dans 10 jours exactement. Entre-temps, Sir Tristano avait affirmé à Foyry et à Langlark que l'expédition était prévue pour dans 20 jours, bien que ces 2 seigneurs ne fussent pas considérés comme suspects au premier chef. De bonne heure, le lendemain, Sir Tristano s'embarqua sans tarder pour Sardilla, au Cadous, afin de découvrir laquelle des 3 indications susciterait en parade des mesures de protection. Finalement, Sir Tristano revint, épuisé par une rude chevauchée et une traversée du Lyre que le gros temps avait rendue pénible. Ayas et Yann écoutèrent son rapport avec grand intérêt. La 10e nuit,
aucune précaution particulière n'avait été prise. Au soir de l'intervalle de 2 semaines, 100 soldats puissamment armés s'étaient postés en embuscade et, tout au long d'une nuit lugubre, avaient attendu une attaque qui ne s'était pas produite. Pour compléter sa vérification, Tristano avait différé son départ jusqu'à ce que la 20e nuit se soit écoulée sans incident. Puis il était retourné aux Trois Cinés. « 3 faits sont maintenant établis », dit Ayas. Premièrement, le vaisseau a bien été commandé par Casimir. Deuxièmement, un traître siège à mon conseil des ministres. Troisièmement, il s'agit soit de Malouf, soit de Pierre Mentz.
L'un et l'autre sont qualifiés pour tenir l'emploi, dit Yann. Et maintenant?
Pour le moment, mine de rien. Identifions notre homme sans lui donner l'éveil.